Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Pierre Assouline, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Gallimard un nouveau roman dont le titre est « Tu seras un homme, mon fils ». Alors, vous présentez encore, est-ce nécessaire ? Je le fais quand même. Journaliste, chroniqueur, radio, romancier, biographe. Vous êtes un ancien responsable du magazine Lire, membre de l'Académie Goncourt depuis 2012. Et vous avez écrit des biographies prestigieuses, notamment Marcel Dassault, Georges Siménon, Gaston Gallimard, Albert Londres ou Hergé. Vous avez beaucoup de prix littéraires qui ont souligner votre talent d'écrivain et de portraitiste. Vous redonnez vie à des icônes et ces icônes vivent dans vos pages, dans notre esprit. Alors ce livre, « Tu seras un homme, mon fils », Rudyard Kipling.
Bien sûr, c'est le poème le plus célèbre de la langue anglaise au XXe siècle. Tous les écoliers l'ont lu, parfois récité, même très souvent, mais même aussi en France et ailleurs dans le monde. Il a été traduit très, très vite. Il date de 1910, donc c'est un poème qui a un bon siècle, mais qui est universel et intemporel. La preuve, c'est qu'on en parle encore et que ça sert de bréviaire encore aujourd'hui. C'est un poème de sagesse.
C'est un poème de sagesse. Rudyard Kipling a été prix Nobel en 1907 et pourtant le poème a été écrit après. On aurait pu croire, vu la gloire et vu le génie de ce texte, qu'il aurait pu contribuer à ce prix Nobel de littérature.
Mais quand il a écrit ce poème, vous savez, d'abord, il ne l'a pas écrit pour son fils, il l'a écrit pour un monsieur qui s'appelait Jameson, qui est un homme d'affaires, et qu'il a connu en Afrique du Sud au moment de la guerre des Boers. Et ce Jameson, de même que Kipling lui-même, était du côté, évidemment, de l'Empire britannique, de la présence britannique, au moment où les Boers voulaient l'indépendance de l'Afrique du Sud. Et il a fait un raid, qu'on appelait le raid Jameson, et qui a défrayé la chronique. Donc c'est un poème, si vous voulez, à la gloire de l'héroïsme, du panache. Mais en même temps, c'est vrai qu'indirectement, c'est une façon de dire à son fils John, qui était tout jeune, voilà ce qu'il faut faire pour être un homme plus tard, c'est obéir à sa conscience et ne pas hésiter à aller de l'avant.
Comment est-ce que cet enfant, John, a été élevé ? Est-ce que, je crois qu'il a été en pension. Comment est-ce qu'il a grandi pour avoir tellement soif de coller à l'idéal de son père ?
En fait, il était écrasé par son père. John était un garçon charmant, adorable, mais qui n'était pas un bon élève, qui avait les valeurs de son père, mais qui ne les a jamais exprimées et qui était quand même écrasé, hein, faut bien le dire, parce que Kipling était célébrissime, c'était le chantre, le grand poète de l'Empire. Donc c'est difficile d'être le fils d'un homme pareil. Donc lui s'intéressait avant tout au sport, au cricket, au football, au rugby, au hockey, bien qu'étant de constitution frêle. Le seul point commun qu'ils avaient, le père et le fils, c'était de parler de mécanique, de moto pour l'un et de voiture pour l'autre. Sinon, il n'était même pas politisé. Et en fait, il disait toujours qu'il n'avait jamais lu les livres de son père, qu'il ne voulait pas les lire.
Il ne voulait pas les lire. Pourquoi ? Parce qu'il se sentait peut-être, comme vous l'avez dit, un peu pas en phase, un peu dépassé, pas au niveau.
Parce que partout où il allait, on lui disait « Kipling, vous êtes le fils du poète ». Et il en avait un peu assez. Bon, mais ça peut se comprendre. Hein. C'est une réaction qu'on a observée chez d'autres gens dont le géniteur était un grand homme. Et là, c'était le cas. Donc, moi, ça ne m'a pas surpris quand j'ai découvert ça.
Comment est-ce que Rudyard Kipling a écrit ce texte par rapport, quelles sont les influences peut-être de philosophes, parce que c'est un texte très, très scandé, avec beaucoup de progression, presque une progression pas tragique, mais...
Alors, vous parlez du poème lui-même. Hein. Le poème lui-même, je pense que vous pouvez dire ça vous-même parce que vous êtes angliciste et que vous l'avez lu en anglais. Mais le problème, c'est que, et c'est ce que dit le narrateur de mon livre, hein, qui lui est un prof de français, prof de lettres, mais passionné par ce poème. Le problème, c'est que pour les Français, la traduction la plus courante, c'est la traduction d'André Monroy. Or, elle est fautive. Elle est pleine d'erreurs, de contresens, et surtout, il y a un quatrain qui n'est absolument pas de Kipling, qui est de Monroy. Donc, il l'a adapté à sa façon, mais avec une telle liberté que ça n'a pas grand-chose à voir. Or, malheureusement, c'est cette traduction qui a prévalu pendant très longtemps, malheureusement. Donc il faut vraiment le lire aussi en anglais pour en avoir la plus juste impression, le plus juste sentiment, à savoir non pas un poème de domination, de force, mais au contraire un poème de sagesse.
Un poème de sagesse, tout à fait. Et Louis Lambert, comment est-il venu ? Qu'y avait-il en lui de déjà bien cristallisé pour entrer en résonance de façon aussi passionnelle avec ce texte, avec Rudyard Kipling? Il voulait absolument offrir une traduction idéale par rapport à un texte idéal.
Alors Louis Lambert, c'est d'abord un prof, un jeune prof du début du siècle, qui est au lycée Janson, où il a été élève, et il a eu comme prof d'anglais Stéphane Mallarmé, le grand poète. C'est important, ça aussi. Et il veut offrir la traduction la plus parfaite, parce qu'il trouve que c'est mal traduit. Alors, quand il découvre la traduction de Monroy, il est effaré. Et il va mettre 30 ans, pratiquement, à traduire ça, parce qu'il est perfectionniste, pour offrir ça à tous les élèves de son lycée, parce qu'il dit que c'est un poème magnifique qui engage. C'est le genre de poème qui peut engager une vie, la conduire, la guider, et ça, c'est assez rare. Il a tout de suite senti que ce poète avait un caractère universel et intemporel, et qu'il allait durer longtemps. La preuve, c'est qu'un siècle après, on en parle encore. Et c'est important. Alors, on va découvrir que ce Lambert, que j'appelais Picard au début, mais après j'ai enlevé Picard parce qu'il y avait une confusion avec l'affaire Dreyfus et le J'accuse de Polanski, dont le héros s'appelle Picard. Je l'appelais Lambert. Dans un cas comme dans l'autre, je cherchais un patronyme très français, mais tout à fait israélite, pour ceux qui savent. Parce que Lambert comme Picard sont des noms qui sont totalement attestés et documentés de vieilles familles juives, ou plutôt israélites, enracinées en Lorraine depuis le XVIIe siècle, si ce n'est depuis le XVIe.
Quelle est l'importance justement du fait que Lambert, Louis Lambert, soit juif de par ses origines par rapport à cet engouement qu'il a eu passionnel pour Kipling?
Alors, bon, d'abord, le fait que Kipling soit antisémite, qu'il le découvre, ça compte, mais en même temps, c'est pas repoussant. Je veux dire par là que c'est un antisémitisme mondain, de salon, et pas du tout militant. D'ailleurs, dans l'œuvre de Kipling, à part un poème, il n'est pas question des Juifs. Donc, c'est pas tellement ça le problème. Non, ce qui était important pour ses origines, parce que Lambert, c'est un personnage fictif, hein, c'est le seul de tout le livre. Lambert, c'est moi, en quelque sorte. C'est parce que lui-même, Lambert, je fais en sorte qu'il soit fâché avec son propre père. Puisque tout le livre, c'est sur le rapport père-fils. Et lui-même est fâché avec son propre père. Ce qu'on découvrira à la fin, c'est qu'il est fâché à cause de l'affaire Dreyfus. Car Louis Lambert, lui, trouve naturel de soutenir Dreyfus et les Dreyfusards, alors que son père s'est rangé du côté de Cavaignac, c'est-à-dire des nationalistes anti-Dreyfusards et parfois antisémites. Et ça, le fils ne le pardonne pas. Si vous voulez, j'ai fait ça pour bien illustrer le fait que l'affaire Dreyfus, ça a été une affaire de famille. Et que ça a déchiré des familles entières, y compris dans les familles juives. C'est pas évident dans les familles juives, parce qu'on peut imaginer que tout le monde est Dreyfusard. Ben non, il y a des nationalistes, il y a des barésiens, il y a de tout.
Alors, Rudyard Kipling, écrivain adulé, poète adulé, a été quand même contesté au niveau de son impérialisme, de son côté conservateur assez raide.
Oui, alors, il a été contesté par la suite, parce qu'à l'époque, c'est vrai que l'impérialisme, le colonialisme était l'idéologie dominante. En fait, bon, il était ultra conservateur, anti beaucoup de choses, même anti-irlandais, et d'une haine totale pour les Allemands, qui dénonçait le danger Bosch, comme il disait, ou le danger 1, comme il disait, en permanence, et l'histoire lui donnait raison. Il est mort en 1936, hein. Suffisamment tôt ou tard pour avoir vu l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933 et qu'il n'avait cessé de dénoncer et d'annoncer, un peu comme un Cassandre. Donc Kipling, il faut jamais oublier que quand il s'exprime en hystérique et en histrion. On lui donne toutes les tribunes, il a une colonne dans le Times et on l'invite à prendre la parole dans tous les meetings. Et on a peur à chaque fois, parce qu'on se dit, mon Dieu, il va y avoir un dérapage, un débordement. Et lui, il s'en fiche complètement. Il se fiche de ce qu'on va dire sur lui, de comment on va interpréter ses excès, mais il est toujours excessif, toujours. C'est son tempérament.
Alors ce texte, son poème extraordinaire, finit par « You'll be a man, my son ». Tu seras un homme, mon fils. Ça, c'est réel. Ça a été écrit et bien traduit. Comment a-t-il absorbé ce choc cosmique que son fils, en s'engageant dans l'armée, meurt, perd la vie, et qu'il pense que c'est par rapport à ce texte très tellement jaillissant, tellement bien, je disais, cristallisé, tellement bien hiératique, tellement bien exprimé, qu'il devait y avoir une influence de ce texte si fort sur son fils fragile.
Le fils n'a pas osé s'opposer au père et le père a décidé pour le fils. Il était en 14, le fils était réformé parce qu'il était tellement myope que l'armée ne pouvait pas lui confier d'être à la tête d'une unité combattante dans les tranchées. Et malgré ça, le père a tout fait. Il l'a pistonné pour être dans un régiment en première ligne et le fils n'a pas osé lui dire non. Et il n'a pas osé décevoir son père. Il l'avait déjà tellement déçu parce qu'il n'avait pas le niveau pour être dans la marine, ni le niveau pour être un officier. Et donc, il était déçu de le décevoir. Et il ne s'est pas opposé. Donc, la question qui est posée tout au long du livre, vous savez, un roman, ça raconte une histoire, mais on se demande toujours qu'est-ce que ça dit d'autre que ce que ça raconte. Et là, ce que ça dit d'autre, c'est sur la responsabilité, jusqu'où on est responsable du destin de son fils ou de sa fille. C'est la question qu'un parent se pose, père ou mère. Là, il s'agit d'un père et de son fils. Parce que ce n'est pas parce qu'il arrive à l'âge adulte que la responsabilité s'efface. Alors, ça dépend des familles. Mais la responsabilité, elle peut durer très longtemps. Parce que de toute façon, même si le fils devient plus âgé et père de famille à son tour, bah, il reste toujours l'enfant de ses parents. Donc c'est autour de ces notions-là que ça se noue, et pour Kipling, de manière aiguë. Il avait perdu une fille déjà, quand elle avait 8 ans, par sa faute, parce qu'il avait tenu à emmener ses enfants à New York en plein hiver, et avec une traversée de l'Atlantique qui était glaciale, et sa fille est morte, et il s'en est jamais remis. Et bis repetita, quelques années après, son fils. Mais comme c'est un Anglais, très très Anglais, « Never explain, never complain ». Donc, on n'en voit rien dans son œuvre, à peine une allusion ici ou là dans un poème ou dans une nouvelle, mais dans ses mémoires, il n'en parle pas. Il était très fermé, très pudique, très anglais.
Et vous, Pierre Assouline, pour trouver tous ces petits éléments disséminés, dissimulés dans l'œuvre, comment avez-vous travaillé? Quelle a été, on ne va pas dire documentation, mais la source de votre connaissance?
Alors, bien entendu, comme pour une biographie, j'ai tout lu. Donc, tout ce qui a été écrit, publié sur Kipling. Et puis après, j'ai fait en sorte de tout oublier. Et j'ai eu 3 sources principales. Ce n'est pas les biographies, c'est pas... Non. La première source, c'est les 6 volumes de sa correspondance en anglais. Ils ne sont pas traduits. Publiés aux États-Unis dans une université. Et ça, je m'en suis beaucoup, beaucoup servi. Pour les dialogues, pour les scènes d'exposition, etc. La deuxième source, c'est le site de la Kipling Society, qui est une société à laquelle j'ai adhéré, qui existe depuis très longtemps. Elle existait du temps de Kipling, non seulement parce qu'ils font un journal remarquable, qui s'appelle le Kipling Journal, et qui est, dont les archives sont en ligne, et ça m'a beaucoup nourri, mais parce qu'ils ont un forum de commentaires remarquable depuis des années autour de Kipling, de son œuvre et de sa vie. Et enfin, la troisième source, c'est pas vraiment une source, je suis allé passer 2-3 jours dans la maison de Kipling. J'ai refait ses promenades dans la campagne du Sussex pour m'imprégner. Et ça, c'est fondamental.
Alors vous, Pierre Assouline, quelle est votre histoire avec Kipling? Vous connaissez l'anglais, vous l'avez pratiqué, vous avez lu ses livres, je pense, en anglais, sa correspondance qui n'était pas traduite. Quel est votre ancrage sur Kipling? Vous avez dit que derrière Lambert, Louis Lambert, il y a vous, Pierre Assouline.
Il se trouve que j'ai connu l'Angleterre à l'âge de 15 ans, parce que comme beaucoup de jeunes de mon âge, mes parents m'avaient envoyé en séjour linguistique à Cambridge pour apprendre l'anglais pendant l'été. Et là, j'ai eu un coup de foudre. Et 3 années de suite, je suis retourné passer l'été dans cette école pour apprendre l'anglais et pour me balader dans ce merveilleuse université. Et c'était l'époque des Beatles triomphants, c'était tout ça. J'adorais ça. Et de là, tout de suite, j'ai eu le goût du pays, de ses mœurs, de sa culture, de son passé, de ses habitants, de sa littérature, de sa poésie, tout. J'ai tout aimé et je n'ai jamais cessé de retourner en Angleterre énormément. J'ai même épousé à l'époque une Britannique. Une osmose qui fait que j'ai été en toutes circonstances. J'ai habité Londres par intermittence, mais j'ai été faire des reportages dans l'Angleterre profonde. J'ai eu la chance d'être reçu pour des interviews très longues d'une journée entière chez John le Carré, chez Graham Greene, chez Anthony Burgess, chez Anthony Paul, chez tous ces écrivains qui m'ont marqué. Et donc c'est pas un hasard si c'est eux que j'ai choisi d'aller voir. Donc voilà, l'Angleterre ne m'a jamais quitté. Donc ça a été un très grand bonheur pour moi de me replonger dans cette Angleterre littéraire et à la fois londonienne et campagnarde.
Et pour vous, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, donc if, si, c'est ce if qui emplit le livre, qu'est-il pour vous? Est-ce que ça a été aussi pour vous peut-être une lumière, un garde-fou, une rampe de lancement? Que représentait pour vous ce poème? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'ancrage aussi essentiel?
Mais pour m'en rendre compte, il a fallu que j'écrive le livre, parce que je ne le savais pas, mais je l'avais en moi depuis très longtemps. Évidemment, je l'ai découvert comme beaucoup quand j'étais au début de ma jeunesse, à la fin de mon adolescence, mais je l'avais appris par cœur, puis après j'ai oublié. Mais en fait, je l'avais en moi, et c'est le fait de l'avoir en moi depuis très très longtemps qui fait que quand c'est ressorti, tu sais, les étincelles, on ne sait pas d'où ça vient, c'était naturel, je ne me suis même pas posé la question. Ma seule surprise, bon, évidemment, j'ai appris beaucoup de choses dans mon enquête. Hein. Le côté antisémite de Kipling, je ne le connaissais pas, bon, parce que ça n'apparaît pas dans l'œuvre. Mais j'ai eu d'autres surprises sur son tempérament, son caractère, tout ça. Et puis ses rapports avec son fils, bien sûr. Mais ma seule surprise est venue du caractère fautif de la traduction en français par André Monroy. Ça, j'ignorais. Moi, je m'étais nourri de ce poème en anglais, et puis de temps en temps en français, mais je n'avais pas fait attention à tout ce qui n'allait pas. Et c'est en vraiment m'y intéressant de près que j'ai trouvé cette histoire. Je me dis, c'est pas possible. Les lecteurs eux-mêmes vont tomber de haut parce que, parce que tous les Français l'ont lu comme ça, en fait.
Moi, je ne savais pas, j'apprends ça. Et y a-t-il eu une autre traduction que celle de Monroy? Avez-vous envie, vous, Pierre Assouline, de le traduire?
À la fin de mon livre, à la fin de mon roman, le héros, devant la tombe de Kipling à Westminster Abbey, lit enfin le poème dont on parle. Et moi, tous les poèmes, parce qu'il y a plusieurs poèmes qui sont cités, reproduits dans le livre, à chaque fois, je donne toujours le nom du traducteur. Des traductions anciennes, traductions récentes, peu importe. C'est une question d'hommage au traducteur, j'ai toujours fait comme ça. Mais le poème de la fin, je ne savais pas quelle version prendre. Je pensais prendre celle de la Pléiade, qui était bien, et qui est la plus récente. Et tous mes amis m'ont dit, mais il faut que tu t'appropries le poème. Alors, en fait, j'ai signé Louis Lambert, mais c'est moi. Donc, j'ai passé une semaine à le traduire parce que, en fait, pour ma chance, j'ai profité de toutes les erreurs de mes prédécesseurs et j'ai profité de l'analyse de ce poème par de quelques anglicistes, notamment Françoise Morvan, qui est traductrice. Elles ont fait des analyses très pertinentes et très fouillées de toutes les traductions, toutes les versions françaises. Donc moi, j'ai profité de tout ça. J'arrive à la fin, c'est normal.
Pierre Assouline, parlons aussi du style. Moi, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais j'ai trouvé une espèce de chair presque proustienne avec de l'atmosphère, avec des redites, avec des...
Alors pour moi, il n'est pas proustien, parce qu'il y a des écrivains anglais comme Anthony Paul, qui sont des... On l'a dit parfois, c'est le Proust anglais. C'est pas lui... Non, je ne penserai pas à ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est... Pour moi, Kipling n'est pas un grand romancier. C'est essentiellement le livre de la jungle, Kim, Capitaine courageux. Mais pour moi, c'est avant tout un très grand poète et surtout un très grand nouvelliste. Mais comme la nouvelle n'est pas un genre très, très aimé en France, on ne s'en rend pas compte. Alors que les short stories en Angleterre, aux États-Unis, ça a beaucoup de succès. Donc pour moi, c'est d'abord ça, son apport. Et puis le poète.
Je parlais de votre écriture à vous. Les pages tournent, il y a une atmosphère, il y a on est imprégné, on oublie qu'on lit et on a l'impression de penser.
Écoutez, j'aimerais bien que ce soit vrai. Peut-être que c'est vrai. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir fou à faire ça parce que ça compte, hein, vous savez. Et quand un auteur est dans la joie d'écrire et de chercher, eh bien, je pense qu'en principe, c'est communicatif à son lecteur. Et c'est pour ça que c'est un grand plaisir pour moi d'en parler, parce que voilà, je peux faire passer quelque chose. Et ce qui est terrible, c'est que j'en suis à... Il est sorti il y a 10 jours, j'ai déjà fait au moins une dizaine de librairies. Et à chaque fois, à la fin, on me demande de lire le poème, de lire ma version. Et je suis toujours très touché parce que les gens applaudissent à la fin. Alors je me dis qu'ils applaudissent Kipling, ils ont bien raison, mais je me dis aussi qu'ils reconnaissent peut-être un peu que la traduction n'est pas si mauvaise.
Alors juste dire que ce livre, vous le dédiez à votre père, Marcel Assouline. Est-ce que vous pouvez ne pas répondre? Est-ce que vous avez aussi une rupture avec votre père, puisque se profile derrière vous le héros de ce livre qui est Louis Lambert, plus que jamais à toi, mon père?
Alors, c'est la seule chose qui me distingue de Louis Lambert, c'est que moi, j'ai toujours eu de très bons rapports avec mon père. J'ai eu la chance de vivre et de naître et de grandir dans une famille aimante. Et j'avais, devenu adulte, même père de famille, conservé avec mon père des rapports très forts, très puissants. Il n'est plus de ce monde depuis 25 ans. Il est disparu à l'âge de 67 ans. Et je dois dire que sa présence est toujours très forte et que quand j'ai écrit ce livre pendant 2-3 ans, il ne m'a pas quitté un seul jour. Donc c'était la moindre des choses que je lui dédie ce roman.
Pierre Assouline, c'est un livre magnifique, épatant et puis très... Moi, je vous dis que ça m'a... Je ne lisais pas, je pensais, je traversais les pages et puis j'ai reçu, je crois, humblement votre texte. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
Pierre Assouline, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître aux éditions Gallimard un nouveau roman, Retour à Séfarade. Alors, déjà, vous présentez s'il est nécessaire. Vous êtes Pierre Assouline, né à Casablanca dans une famille juive séfarade, journaliste. Vous avez écrit des biographies, ancien responsable du magazine Lire et membre de l'Académie Goncourt depuis 2012. Vous avez notamment écrit les biographies de Marcel Dassault, Georges Simenon, Gaston Gallimard, Albert Londres ou encore Hergé. Parmi vos romans, ce que je voudrais citer, il y a Lutetia en 2005 qui parle entre autres de cet hôtel Lutetia, le lieu d'accueil des déportés et rapatriés. C'est en outre évidemment une histoire romanesque, un roman d'amour. Après, il y a le portrait en 2007, permet à travers le portrait de la baronne Betty de Rothschild, peint par Ingres en 1848, de raconter l'histoire de la famille Rothschild. Et puis, il y a eu Golem chez Gallimard en 2016. Ceci pour dire qu'il y a souvent cette veine de la culture juive chez vous. Alors, c'est avant de parler de ce livre qui nous réunit aujourd'hui, Retour à Séfarade, la culture juive, c'est une veine importante dans votre écriture, dans votre réflexion, non ?
Oui, en effet. Vous avez cité ces trois ou quatre titres. Il y a aussi le dernier des Camondo, qui est très marqué par cet esprit. Cela étant, à côté, il y a une vingtaine de livres qui ne relèvent pas du tout de cette culture.
Bien entendu.
Donc, je peux difficilement m'enfermer dans cet univers-là, parce que je me suis intéressé et je m'intéresse encore à beaucoup d'autres choses, même s'il est vrai qu'il y a quand même ce fil rouge qui est un petit peu, parfois un peu... invisible, hein, parce qu'il y a aussi Vie de Job qui est très marqué par ça, mais je ne le renie pas, au contraire, mais il reste très présent. C'est une empreinte, c'est pas une inspiration, hein. Mm-hmm. C'est beaucoup plus une imprégnation et une empreinte très forte.
Et un savoir, est-ce que vous étudiez les textes juifs bibliques, vous connaissez l'hébreu, parce que vous citez le Zahor, vous avez en vous donc cette présence d'érudition, de culture qui rejaillit dans vos textes.
Enfin, j'ai suivi des cours il y a pendant quelques années après la mort de mon père, quand ça arrive souvent dans ces cas-là, donc on se rapproche un petit peu du religieux, et ça a été pour moi l'occasion de suivre un enseignement, je suis davantage autodidacte qu'autre chose, et en toute chose, mais évidemment j'ai un goût très prononcé pour... j'ai une grande curiosité, si vous voulez, pour l'univers juif en général, et qui se traduit par beaucoup de lectures, mais aussi beaucoup de rencontres avec des gens qui en savent beaucoup plus que moi, en France, mais aussi dans le monde, parce que j'ai la chance de beaucoup voyager. Et aussi, je suis très attaché à assister à des conférences. Je suis un auditeur de conférences, en plus d'être un lecteur. C'est important parce que c'est souvent les mêmes auteurs que je lis et que j'écoute. Mais ils ne disent pas toujours la même chose. J'ai toujours fait les deux en même temps. Et encore une fois, dans différents pays, donc ma curiosité est très, très, très large, si vous voulez, sur ce plan-là.
Nous revenons, si vous voulez bien, à ce livre, Retour à Séfarade, qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Je lis quelques lignes qui sont un peu l'amorce de votre réflexion et de votre écriture par rapport à ce grand texte. Il y a 2 ans, Sa Majesté Felipe VI d'Espagne a dit aux Juifs séfarades « Comme vous nous avez manqué ». En fait, il s'adressait à l'ensemble des séfarades à travers le monde, ses descendants des Juifs expulsés d'Espagne en 1492. À l'occasion d'une nouvelle loi nous accordant la citoyenneté, le roi d'Espagne nous offrait le retour au pays. Vous avez pris pour vous cet appel historique et là, il y a un roman presque picaresque, étincelant.
En fait, cette déclaration, ce discours du roi qui m'a touché tout de suite, se greffait sur une interrogation qui est chez moi plus ancienne, qui est une quête d'identité permanente et une participation permanente aussi ou récurrente au débat très français sur l'identité, et qui pour moi a été crispé parce qu'on a beaucoup trop associé identité et national. Alors que je plaide pour une identité évidemment multiple, diverse et cosmopolite, dans le meilleur sens du terme. Et donc tout ça s'est un peu mélangé, et c'est vrai que j'ai eu une sorte d'éclair quand il a fait ce discours, d'autant plus que ça avait été suivi par cette loi qui a été votée au Cortés à l'unanimité et qui permet donc aux séfarades d'obtenir un passeport espagnol. J'ai déjà un passeport européen étant français, et évidemment pas question que je renonce à ma qualité de français, mais ma démarche était symbolique. Donc je me suis dit, je vais faire le processus normal de demander la nationalité espagnole, mais pour des raisons symboliques, parce que même si un jour je n'exclus pas de vivre en Espagne, parce que c'est un pays que j'aime énormément, j'ai même pas besoin d'un passeport pour ça, étant déjà européen. Mais je voulais aller jusqu'au bout, et comme je suis écrivain, un écrivain très souvent ne comprend ce qui lui arrive que s'il l'écrit. Donc j'ai fait la démarche et j'ai voulu la raconter. Mais évidemment, il ne s'agit pas que c'est pas un roman sur une démarche administrative. Elle est le fil d'Ariane. Le plus important, c'est que je n'ai pas attendu d'obtenir ce passeport espagnol pour retourner en Espagne. Je dis bien retourner et dire aux Espagnols, ben voilà, c'est moi. Je reviens 5 siècles après et observer leur réaction. Et donc, c'est à la fois un roman sur le sentiment d'être juif et séfarade en Espagne, ce qu'il en reste dans l'Espagne d'aujourd'hui, et aussi un livre sur l'Espagne et les Espagnols, tels que je les ai vus, rencontrés, écoutés, un peu partout, parce que je suis allé un peu partout, de manière assez désordonnée. Et puis, je me suis pris pour un Don Quichotte séfarade. Donc, comme c'est mon livre de chevet, ben, je dis, voilà, je suis El Quijote Sefardi, tout simplement, en toute modestie.
Et alors, donc, vous avez déposé un dossier, et sans attendre votre naturalisation, vous êtes parti en Espagne, le pays de Don Quichotte, d'Almodovar, de Goya, du Real de Madrid, de l'Inquisition et de la post-Movida. Ça vous parle énormément. C'est un pays très vitalisé pour vous, irrigué de lecture, irrigué d'intérêt. Et c'est important pour vous, l'Espagne.
C'est important, puis j'y étais heureux, et quand j'y suis bien, enfin, je me sens chez moi. Enfin, vous savez, j'ai le cœur innombrable, hein, comme disait Alain de Noailles dans un de ses poèmes, et donc je ne renie aucune des parties qui m'ont fait. Donc je suis européen, français, mais aussi méditerranéen, indiscutablement. Et puis je me sens en Espagne chez moi, mais je me sens au Maroc chez moi, parce que j'ai été heureux au Maroc, qui a été le pays de mon enfance et de mon adolescence. C'est un pays que je continue à aimer, qui me fait encore vibrer. Donc tout ça, ça fait un mélange. C'est ça qui fait une identité. C'est l'acceptation et la reconnaissance des mélanges. Ça ne signifie pas qu'on a des loyautés contradictoires, pas du tout. Mais ça veut dire qu'on est fait de plusieurs parts, quoi. C'est rare des gens, même en France, qui viennent d'un seul endroit et depuis toujours. Surtout quand on vit à Paris, qui est à Paris, il n'y a pas de Parisiens pratiquement. Ça n'existe presque plus, les Parisiens. Et c'est une minorité à Paris. Paris, c'est une tour de Babel. On parle toutes les langues. Les gens viennent de partout. Mais pas seulement. Dans le nord de la France, vous avez des Français d'origine polonaise. Ailleurs, des Français d'origine italienne. Le premier groupe étranger français, enfin en France, c'est les Portugais et les Espagnols qui sont là depuis 60 ans. Tout ça, ça compte. Et tout ça fait des identités multiples qui ne sont pas du tout contradictoires ni opposées.
C'est le terreau de votre écriture, de votre intériorité. D'ailleurs, vous avez parlé d'une réflexion sur l'identité. Votre identité à vous, écrivain, est-ce une terre ou une langue ?
C'est plus une langue qu'une terre, parce que la terre, on en a été séparés. Et puis pas seulement avec l'Espagne et l'expulsion de 1492, mais en faisant l'enquête pour ce livre et l'enquête aussi pour Golem, donc en Europe centrale, j'ai vraiment pris conscience de la disparition, et c'est un phénomène historique très important et très grave, la disparition de deux civilisations au XXe siècle. La civilisation juive en terre d'islam et la civilisation juive yiddish en Europe centrale. Ces deux mondes ont disparu, soit parce qu'ils ont été assassinés par les nazis, soit parce qu'ils sont partis, encouragés ou pas, ça dépend des pays. En Égypte, on les a fichus dehors, les juifs, et dans d'autres pays aussi, mais ça n'a pas été... En Algérie, ça a été la guerre, et c'est l'ensemble des Européens qui ont dû partir. Au Maroc, ils sont partis de leur plein gré, encouragés par les gens juifs. Donc tout ça, ce sont des situations différentes, mais le constat est le même. Ce sont deux civilisations qui ont disparu. Quand on sépare une civilisation de l'endroit où elle est née et où elle s'était enracinée et épanouie, eh bien elle meurt. Aujourd'hui, le yiddish, le judéo-arabe et le judéo-espagnol sont des langues qui sont appelées à disparaître très vite. Ça, c'est très triste. Surtout pour ce qu'on appelle le judéo-espagnol, c'est-à-dire non pas le ladino, parce que ça, c'est une langue qui se prie, mais qui ne se parle pas, mais ce qu'on appelle en Turquie et dans l'ex-empire ottoman le judaïsme, et qu'on appelle au Maroc la haketia. Eh bien, même ces langues-là, aujourd'hui, sont parlées par très peu de gens. Alors que ce judéo-espagnol, pendant 5 siècles, a perduré, loin de sa terre, ce qui est un miracle absolu. Parce que c'est la chose, les deux choses qui ont sidéré et provoqué l'admiration des Espagnols qui s'intéressent à la question, et notamment le roi Felipe VI dans son discours, mais les Espagnols que j'ai rencontrés par la suite, des hommes politiques, des ministres, des écrivains, des philosophes, c'est d'une part la nostalgie que les séfarades ont pour l'Espagne, alors que quand même, elle les a expulsés, elle les a maltraités, elle les a persécutés, parfois elle les a massacrés. Eh bien, ils ont aussi été très heureux en Espagne, mais quand même, ils ont conservé une nostalgie de l'Espagne inouïe, et d'autre part, le fait que ils ont emporté leur langue avec eux, qui était du viejo castellano, c'est-à-dire du vieux castillan matiné de mots d'hébreu, puis ensuite des mots de turc ou d'arabe. Ils l'ont emporté et ils n'ont jamais cessé de la conserver en eux. Et ça, c'est inouï.
Alors, retour à Séfarade, retour. Rappelez que les Juifs ont été expulsés d'Espagne en 1492. Et que le mot séfarade n'indique pas automatiquement un juif d'origine nord-africaine. Séfarade, vous dites que c'est un lieu donné par les textes hébraïques.
Oui, c'est chez le prophète Obadia qu'on trouve la seule occurrence du mot séfarade, donc une seule fois, et dans l'Ancien Testament. Et il dit, et les exilés de Jérusalem partiront le plus loin possible de Jérusalem en exil à Séfarade. Or, quand ça a été écrit et pensé, ces mots-là, c'était l'endroit le plus éloigné, c'était un petit village qui s'appelait Sfarde, qui était dans l'Irak actuel à peu près. Évidemment, ce village a disparu depuis. Et ensuite, quand ça a été longtemps après traduit, d'abord en grec, pour les Juifs d'Alexandrie, mais ensuite du grec au latin, par Jérôme, Saint Jérôme, et ça donnait la Vulgate, à cette époque, l'endroit le plus éloigné de Jérusalem, c'était la péninsule ibérique. Alors, il y a toujours eu des Juifs dans la péninsule ibérique, à partir de l'exil, du second exil, à partir de la destruction du second temple de Jérusalem par les Romains.
En 70, c'était après Jésus-Christ.
En 70, voilà. Après Jésus-Christ, des Juifs ont commencé à aller en péninsule ibérique, donc avant même les Visigoths et évidemment avant les Espagnols. Il y a toujours eu cette présence, plus ou moins importante, Il y a toujours eu cette présence. Et donc on a identifié l'Espagne comme étant la séfarade qui est dans la Bible. Bon, à tort ou à raison, peu importe, c'est devenu séfarade, c'est ça qui compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en hébreu, quand on veut désigner l'Espagne, on dit séfarade. Donc les séfarades sont les descendants de ces juifs d'Espagne qui ont été expulsés. Et bien entendu, le mot séfarade, d'ailleurs comme le mot ashkenaz, a pris un sens extensif des juifs du monde arabe, qui très souvent n'ont absolument rien d'espagnol à l'origine, qui ne pratiquent pas la langue, sont considérés comme séfarades. Mais ça, c'est normal. Un mot évolue et prend un sens extensif.
Alors donc, en 1492, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé et que sont devenus ces juifs après l'expulsion?
En 1492, c'est une date importante pour l'Espagne parce que c'est la date de la chute du dernier bastion musulman, arabo-musulman, dans la péninsule ibérique, c'est à Grenade. Et donc, Grenade tombe dans les mains des troupes de la Reconquista chrétienne. Et ce que le Saint-Père appelait les rois catholiques, c'est-à-dire Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, commence à faire vraiment l'unité religieuse du royaume. Donc, les musulmans, les morisques, vont être chassés plus tard, mais déjà, ils sont mal, puisqu'ils ont perdu cette guerre de reconquête. C'est également l'année où Christophe Colomb part pour l'Amérique, enfin, pour un territoire qui se révélera être plus tard l'Amérique. Et puis, donc, ils décident de faire l'unité religieuse du royaume. Et alors qu'ils avaient des conseillers juifs, comme le fameux Abravanel, qui était pas seulement une grosse fortune, un grand esprit, mais aussi un conseiller politique et économique, et aussi financier, parce qu'il était banquier pour eux, très écouté par les rois, eh bien, ils vont décider, soudainement, de donner 3 mois aux juifs d'Espagne pour choisir. Et c'est quand même un drôle de choix. Soit rester, mais à ce moment-là se convertir au catholicisme, soit partir. Et si c'est ni l'un ni l'autre, c'est la mort. L'Inquisition avait commencé déjà à travailler, si je puis dire. Mais dans les 3 mois, donc, les Juifs, qui sont là depuis des siècles et des siècles, doivent vendre, dans la mesure du possible, et partir. Ils prennent la route pour rejoindre 2 ou 3 ports qu'on leur a assignés, notamment sur la côte andalouse, et à partir de là, partir dans 2 directions, soit le Maroc, Tanger, et à partir de Tanger, essaimer au Maghreb, soit l'Empire ottoman, et surtout Constantinople et Izmir, à partir desquels ils vont essaimer vers Salonique, Rhodes, etc. Et ceux qui restent se convertissent. Donc il y a un certain nombre de gens, on a des chiffres à peu près, parce que la communauté juive en Espagne était très très importante, très nombreuse, mais c'est ceux qui restent, qui se convertissent au catholicisme, qui vont le plus subir l'Inquisition. Parce que l'Inquisition ne s'est pas tant attaquée aux juifs qu'aux nouveaux chrétiens, qu'elle soupçonnait de continuer à judaïser en secret. Ce qu'on a appelé los maranos, les maranes, et qui étaient pourchassés, persécutés. Je veux dire, il faut imaginer des arrestations arbitraires, des interrogatoires, des tortures, des procès truqués, et ça se terminait le plus souvent sur un bûcher brûlé vif en place publique, devant tout le monde. Voilà, c'était ça l'Inquisition, et ça a été l'horreur pendant des années.
Or, les expulsés, les convertis, comme vous l'avez dit, se sont mêlés aux catholiques et un nombre incalculable d'Espagnols a des origines juives. Alors, il y a des lignes qui parlent de Sainte Thérèse d'Avila qui est originaire d'une famille juive. Je crois que ce sont les grands-parents et c'est la grande mystique. Donc, il y a comme ça des origines juives aux personnalités les plus marquantes de l'Espagne.
Oui. Oui, mais ça, on le sait bien aujourd'hui, parce que il fut un temps, notamment sous Franco, où c'était, comment dire, on ne parlait pas de tout ça. pendant les 40 années du franquisme, on s'est assis là-dessus. Ça a été, ou les temps, ce que je dis, 40 années, 60 années. C'était pas une omerta, mais c'était un tabou. Il fallait pas en parler. Comme en plus on prêtait des origines juives à Franco, alors c'était le pire. Mmh. Et comme en plus Thérèse d'Avila était sa sainte préférée, il est mort avec des reliques de Thérèse d'Avila entre ses mains. Mais on s'aperçoit depuis, parce qu'il y a eu maintenant beaucoup de recherches faites là-dessus, que énormément d'Espagnols, et notamment d'aristocrates espagnols, ou de grands philosophes, de grands penseurs, sont d'origine juive, séfarades ou convertis ou maranes. Et ça, il y a eu, c'est pas des listes, mais il y a eu beaucoup d'enquêtes de faits, de recherches très savantes là-dessus. Même Salavante, hein, sont des prêtres des origines maranes. Oui. Donc, c'est inouï à quel point le judaïsme espagnol, qui était d'une très grande richesse, notamment sur le plan intellectuel, philosophique, religieux, et scientifique aussi, a pu comme ça se propager dans la société espagnole parce que il était obligé de se convertir pour ne pas partir, pour ne pas renoncer à être présent dans ce pays.
Alors il y a ces livres qui irriguent ce texte, ces lectures je veux dire qui irriguent ce texte, Cervantes, La Celestina, il y a beaucoup de choses passionnantes dans votre texte, dans votre roman Retour à Séfarade, Pierre Assouline, et ce livre, ce roman paraît aux éditions Gallimard. Merci beaucoup et au plaisir de vous lire très prochainement et de vous écouter. Merci.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt, au revoir. Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Solange.